Europe 1.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche. La guerre à Gaza entre dans son sixième mois. Le colonel Michel Goya est mon premier invité ce matin. Il vient de sortir L'Embrasement sur les enjeux de la guerre entre Israël et le Hamas. Je recevrai ensuite Sébastien Le Foll qui publie Les lieux du pouvoir. Car il n'y a pas que l'Élysée ou Matignon, il y a aussi la tribune présidentielle au Stade de France ou celle du 14 juillet ou le poste de commandement Jupiter enterré sous l'Élysée. Il va nous les faire visiter. Et l'on terminera l'émission avec Valérie Benaïm qui a enquêté sur toutes ces femmes qui tombent amoureuses de tueurs en série en prison. Pourquoi? Comment? Elle va nous le dire.
Europe 1.
Michel Goya, bonjour.
Bonjour.
Colonel des troupes de marine, vous êtes aujourd'hui l'un de nos meilleurs historiens militaires et vous publiez L'Embrasement pour mieux comprendre les enjeux de la guerre Israël-Hamas. Vous y rappelez notamment qu'Israël a dû faire face dès sa création à deux types d'ennemis, les États voisins et les organisations irrégulières. Alors qu'est-ce que ça a donné ?
Oui, alors c'est Israël, dès sa naissance, est un État, un petit pays qui est entouré de grands États arabes qui lui veulent du mal. Et on est persuadé à cette époque que ça va durer pendant très longtemps. Et en même temps, il y a le problème palestinien. C'est après l'exode massif des Palestiniens du territoire qui devient Israël. On s'aperçoit que ces gens commencent déjà à vouloir revenir et ça ne se passe pas forcément très bien. Et que petit à petit, ils vont s'organiser aussi de manière militaire pour lancer des guerres. Donc ça fait deux menaces assez différentes. La menace des États avec leurs armées régulières et puis la menace irrégulière donc de ces groupes de plus en plus armés, plus en plus structurés au milieu de la population palestinienne. Et voilà, il faut faire face à ces deux ennemis. C'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait la même guerre, mais en même temps, Israël n'a pas les moyens d'avoir forcément d'avoir deux armées en même temps pour faire face à deux ennemis différents.
Alors, quelles conséquences ça a eu pour l'armée israélienne sur un plan stratégique ? Vous dites qu'au fond, elle a dû composer et depuis, elle fait toujours la même chose.
Ben oui, sensiblement. C'est-à-dire qu'il y a cette idée dès le départ de... Alors nous, Israéliens, sommes dans un petit pays très menacé face à des grands États que nous ne pourrons pas vaincre, que nous ne pourrons pas détruire. Ces gens-là nous détesteront pendant des dizaines d'années et ils veulent notre mort. Et donc, notre seule solution, c'est dès qu'apparaît une menace, c'est de frapper vite et fort. Vite parce que voilà, on est tout petit. Il faut, même si possible, prévenir la menace et frapper très très fort de façon à déjà détruire cette menace immédiate. Et puis dissuader l'adversaire de revenir. Et peut-être qu'à force de frapper très fort, cet adversaire va finir par se lasser et nous laisser en paix. Donc c'est fondamentalement, c'est la matrice stratégique, je dirais, d'Israël. Et donc qui s'applique d'abord effectivement au conflit entre États, puis de plus en plus, et notamment à partir des années 80, contre des organisations armées.
Vous citez un officier israélien qui vous a dit un jour « Quand on ne croit pas à la paix, on est obligé de croire à la sécurité ».
Oui, écoutez, c'est, l'idée de paix est tellement, notamment actuellement, c'est tellement compliqué. Ça demanderait tellement d'efforts de la part d'Israël. Puis quelle paix, quoi. On parle solution à deux États, etc. Mais ça demanderait de retirer, par exemple, toutes les colonies de Cisjordanie. Enfin, c'est très, très compliqué. C'est très dur à imaginer. Puis la paix avec qui? Avec des organisations comme le Hamas, c'est pas concevable. Donc, dans tous les cas de figure, la paix leur paraît complètement impossible. Et quant à terme à peu près visible, et donc dans ces conditions, on ne peut que se contenter de rechercher la sécurité. Moi, j'ai été très frappé une fois, c'était en 2004, où j'étais allé pour la première fois en Israël, de discuter avec des officiers, qui nous disaient, pour nous, le problème palestinien est résolu. Je dis, ah bon, vous êtes sûr? Mais oui, regardez, il n'y a plus d'attentats depuis qu'on a mis en place la barrière de sécurité. Il n'y a plus d'attentats terroristes contre nous. Donc, on a résolu le problème. Et si, si ça réapparaît, on refrappera. Ça va s'éteindre. Et puis, on continuera éternellement s'il le faut, parce que nous sommes les plus forts. Et de toute façon, nous avons le temps.
Au fond, la paix, vous le dites, hein, Michel Goya, pour les Israéliens, c'est de ne pas être attaqués.
Oui,
mais
ça
les a condamnés à recommencer éternellement la même petite guerre à chaque fois qu'ils ont été attaqués.
Oui, oui, alors c'est carrément une forme de guerre de Sisyphe. Hein. On remonte le rocher sur la colline, puis il finit toujours par retomber et il faut recommencer éternellement. Et donc, c'est assez frappant. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples, d'ailleurs, historiquement, où on a toute une série de conflits entre le Hamas, notamment à partir du moment où le Hamas prend le contrôle de Gaza, et Israël, donc vous avez tous les deux ans ou tous les ans, en 2006, en 2000, en 2008, en 2012, en 2014, en 2021 avec le djihad islamique, vous avez à chaque fois, ça recommence et sous le même schéma. C'est exactement la même chose qui se répète indéfiniment. Je ne sais pas, encore une fois, si on a d'autres exemples historiques de cet éternel recommencement de la guerre.
Mais le 7 octobre, est-ce que c'est une rupture ?
Oui, pour le coup, oui, bien sûr. Parce que ce modèle de sécuritaire, on va l'appeler comme ça, israélien, où on maintenait à distance un peu la menace, d'abord par une grande barrière de sécurité, puis avec des moyens permettant de frapper sans prendre trop de risques pour soi-même et pour ses propres soldats, ce modèle, il a un peu volé en éclats. C'est-à-dire que la barrière de sécurité, le bouclier que l'on pensait absolument invulnérable, a été percé. Et non seulement a été percé, mais ça a provoqué une véritable catastrophe. Un choc abominable, une attaque terroriste d'une ampleur sans précédent. Et non seulement voilà, une véritable attaque, une défaite militaire, hein, mais aussi des actions absolument épouvantables. Et là, on ne peut pas refaire comme avant. C'est-à-dire que d'abord, le modèle lui-même, il faudra réfléchir à autre chose que barrière de sécurité, ou au moins la renforcer très largement. Et puis surtout, on ne peut pas se contenter d'aller, alors ils appelaient ça tondre le gazon, c'est une expression terrible. Là, il faut aller beaucoup plus loin. On ne peut pas laisser le Hamas exister encore après une telle attaque. Ce n'est pas possible.
On fait une pause, on y revient tout de suite après. Nous sommes ce matin avec Michel Goya, colonel des troupes de marine, historien militaire, qui publie L'Embrasement. Vous comparez au fond les actions israéliennes, pas seulement la dernière, mais toutes celles qui l'ont précédée, à des opérations de police géantes.
Oui, alors d'abord, il y a plusieurs aspects. Il y a deux manières d'employer la force. Hein. Il y a la guerre et la police. La force légitime, selon Max Weber. La guerre, il faut désigner un ennemi, il faut désigner un interlocuteur avec qui, normalement, vous faites la paix. Mais il n'en est pas question. D'abord, on ne veut pas désigner le Hamas comme un interlocuteur valable. On ne veut pas faire la paix avec lui. Il n'en est pas question. Donc, si vous ne faites pas la guerre, vous faites de la police, tout simplement. Donc, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, vous écrasez l'ennemi momentanément. Mission de police, vous êtes là pour maintenir un ordre. Vous avez des gens qui contreviennent à cet ordre, des criminels, vous les neutralisez et vous la mettez à justice. Là, c'est pareil. Dès qu'apparaît une menace, on essaie de l'éliminer ou de la réduire au maximum. Et le tout dans un ensemble, effectivement, un territoire qui, en termes de droit international, est quand même assez étrange. C'est le moins qu'on puisse dire. On est un territoire occupé. La Cisjordanie, ce n'est pas un État de droit. Et Gaza, ça a été qualifié d'entité hostile par Israël. L'entité hostile, c'est en termes de droit international, c'est quand même excessivement flou. Et donc, de fait, ce que dit le droit, c'est que ces territoires sont toujours occupés par Israël et donc sous la responsabilité, le sort de leur population est sous la responsabilité israélienne.
Vous dites, Michel Goya, dans votre livre, au fond, que Israéliens et Palestiniens sont tous condamnés, comme dans une tragédie grecque ou comme dans la série israélienne Fauda,
oui,
ce qui veut dire chaos, hein, à s'affronter au cœur d'une arène dont personne ne peut sortir.
Oui, c'est terrible, c'est une tragédie. C'est-à-dire que vous avez des adversaires qui sont là dans une arène fermée, condamnés à être les uns face aux autres, à s'affronter éternellement. C'est ce côté tragédie et le côté éternel aussi, et sans trouver de solution parce que, encore une fois, la paix est trop difficile à atteindre. Donc on va continuer à se battre, peut-être jusqu'à épuisement.
Alors, la stratégie du gouvernement Netanyahou à Gaza et en Cisjordanie, c'est la même. Frapper fort, le plus vite possible, pour dissuader l'adversaire de recommencer.
Oui, bien sûr, c'est toujours la même chose. Et en même temps, le gouvernement de Netanyahou, ce qui s'est passé, c'est que les gouvernements, parce que Netanyahou était quand même au pouvoir depuis un certain temps.
Depuis 2009.
Première fois où il était arrivé au pouvoir, c'est en 1997. Oui, ça a toujours été quand même aussi de maintenir, de conserver cette division du mouvement palestinien. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même du mouvement palestinien, vous avez quand même des fortes oppositions, pour résumer, entre le mouvement islamiste et le Hamas en particulier, et puis l'OLP, l'ex-OLP, et en particulier le Fatah, qui se disputent un peu le leadership du mouvement. Et cette division, évidemment, paralyse ce mouvement et empêche, encore une fois, toute avancée vers un processus de paix. Et pour le gouvernement Netanyahou, c'était finalement, ça arrangeait bien cette situation, puisqu'ils ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas, en tout cas, ils ne veulent pas d'un État palestinien. Et donc, ça les arrange. Et donc, on peut, le gouvernement Netanyahou a été finalement, d'une certaine façon, assez complaisant avec, depuis tout temps, avec les frères musulmans dans le territoire de Gaza, qu'ils ont peut-être un peu laissé prospérer. Et quand il a fallu, par exemple, libérer des prisonniers, à plusieurs reprises, on a libéré des prisonniers du Hamas, mais Marwan Barghouti, qui est le grand leader du Fatah, est toujours en prison, par exemple.
Celui qu'on appelle le Nelson Mandela palestinien.
Voilà.
Mais vous dites, au fond, Michel Goya, qu'il y a une préférence bien ancrée chez les Israéliens, désormais, pour une mauvaise sécurité permanente plutôt qu'une paix définitive, à laquelle ils ne croient plus, en fait.
Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que, quelle forme pourrait avoir la paix soit une solution en un État, vous englobez tout le monde, mais vous donnez la citoyenneté aux Palestiniens. Israël, la communauté juive, et pour de très bonnes raisons, qu'on peut tout à fait comprendre, n'a pas du tout envie de se retrouver en minorité sur son territoire. Donc, c'est quelque chose qui est complètement exclu. Et puis, la solution deux États, mais les États palestiniens, quel État palestinien, qui, quoi, c'est un État terroriste, c'est pas possible. Donc, ils préfèrent cette situation de au bout du compte, alors que cette paix est impossible, de continuer, finalement, à se battre, et on revient à cet enchaînement de ces deux adversaires, qui, sur le fond, finalement, ont de bonnes raisons de lutter, mais sont incapables de faire la paix, d'autant plus, je dirais presque, que à force de s'affronter, que s'accumulent les ressentiments, que s'accumulent les rancœurs. Il y a notamment cette idée, cette non-idée, de certaine façon, du côté israélien, de ne plus chercher, par exemple, à se concilier la population palestinienne en disant, en étant une sorte de modèle attractif, ou en l'achetant, etc. Ils considèrent que maintenant, c'est fini, que les Palestiniens les détestent de toute façon, et qu'il y a une vraie coupure d'ailleurs, accentué par la création de cette barrière de sécurité. C'est-à-dire que ces gens-là, finalement, n'ont plus même beaucoup de contact physique, ne se voient plus. Avant ça, ils travaillaient ensemble, il pouvait y avoir un chemin vers une forme d'assimilation, de conciliation. Mais là, la coupure est très nette et elle s'agrandit avec du sang, en réalité.
Et en deux mots, Michel Goya, comment vous voyez l'après-guerre à Gaza? Une guérilla permanente, deux bourbiers, la Cisjordanie et Gaza, occupés par Israël comme au temps des antifadas?
C'est vers ça que l'on se dirige. Enfin, on voit pas très bien. Et ça aussi, c'est une source d'étonnement. C'est-à-dire, voilà, il y a aucune perspective politique qui est proposée par le gouvernement israélien. C'est-à-dire aller chercher le Hamas, aller essayer de le détruire. Donc pour ça, mécaniquement, il faut occuper Gaza. D'accord. Ça, c'est effectivement, on peut comprendre cette logique et l'approuver, même la logique, cette logique militaire. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Qui va gouverner Gaza? Et dans quelles conditions? Alors qu'une grande partie du territoire est détruit, qu'on est dans une situation humanitaire épouvantable. Qui va gouverner Gaza après? Non, logiquement, ça devrait être en droit, ça devrait être l'autorité palestinienne qui devrait être rétablie, mais il n'est pas évident que le gouvernement le veuille. Et dans ce cas-là, on peut peut-être revenir à une occupation militaire, mais qui risquerait de se transformer en bourbier. Il ne faut pas oublier que si les Israéliens ont évacué militairement Gaza, c'est pour éviter justement de se laisser enfermé dans un bourbier, comme il l'avait fait également au Liban, au sud du Liban. Mais ce faisant, ils ont laissé un peu la place à une organisation comme la Hamas qui a occupé le vide. Et donc là, c'est un dilemme. Qu'est-ce qu'on fait ? On reste, on va évacuer à nouveau ce territoire et se retrouver à nouveau avec un ennemi probablement à nos portes. Voilà, c'est un dilemme qui apparemment n'est pas encore très clairement résolu.
L'embrasement, c'est le titre de votre livre, Michel Goya, qui vient de paraître aux éditions Perrin et Robert Laffont. Et je vais maintenant recevoir Sébastien Le Foll, qui publie Les lieux du pouvoir.
9h-10h,
c'est arrivé demain sur Europe 1.
Sébastien Le Foll, bonjour.
Bonjour Frédéric Tadéhi.
Vous êtes journaliste et c'est sous votre direction que vient de paraître aux éditions Perrin Les lieux du pouvoir. Pour comprendre notre pays, dites-vous, il faut explorer ses palais nationaux. Pourquoi ?
Ah, vous savez, Frédéric Tadéhi, moi je suis comme beaucoup de Français, je ne comprends pas toujours comment sont prises les décisions dans notre pays. Et j'avais un rêve qui était un peu d'être une petite souris qui se faufilerait dans tous ces lieux du pouvoir, du bureau du président à celui du Premier ministre. Et ainsi de suite, et d'assister aux conversations et de raconter ces lieux sur lesquels on fantasme beaucoup. Et j'ai proposé à une vingtaine d'excellents journalistes, très bons connaisseurs de ces lieux, qu'ils arpentent depuis longtemps, de nous raconter la vie quotidienne dans ces lieux du pouvoir, et à la fois l'exercice du pouvoir et sa symbolique, car c'est très important la symbolique.
Alors il y a les lieux auxquels on pense tous, hein, l'Élysée, Matignon, l'ENA, le Quai d'Orsay, le Château de Versailles, et puis il y a ceux qui se sont imposés plus récemment, comme la Cour d'honneur des Invalides à Paris, où l'on célèbre désormais les soldats tombés pour la France, les victimes du terrorisme, ou des personnalités comme Jean-Paul Belmondo ou Jean d'Ormesson.
Oui, alors ça, c'est on le doit à Emmanuel Macron d'avoir réinvesti ce lieu, qui est d'ailleurs pas commode du tout, parce que pour ceux qui l'ont fréquenté, notamment l'hiver lors d'une cérémonie, c'est glacial. Hein, c'est le vent du Nord s'engouffre par l'esplanade des Invalides. Mais effectivement, ce lieu, le nombre de cérémonies d'hommage à des personnalités qui ne sont pas militaires s'est multiplié. Sous Emmanuel Macron, il y a eu des cérémonies importantes, l'hommage au gendarme Arnaud Beltrame, à Jean d'Ormesson, à Jean-Paul Belmondo et d'autres. Et je dirais que la Cour des Invalides est devenue le complément du Panthéon. Hein. Le Panthéon, c'est Sylvain Faure, qui est l'ancienne plume d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, qui nous raconte ce lieu. Le Panthéon, c'est ce qui s'est passé il y a longtemps. Hein. C'est la tentative de donner une cohérence au passé. Alors que là, la Cour d'honneur des Invalides, c'est ce qui vient de se produire et qui remue la nation.
Et ce qu'il y a de frappant, c'est que la musique y joue un rôle très important, hein, dans la Cour des Invalides.
Oui, de même que d'ailleurs Sylvain Faure nous le dit, on n'écrit pas de la même manière un discours du président pour la Cour d'honneur des Invalides et pour le Panthéon. Oui, il y a eu toute une programmation musicale qui s'est imposée à ce lieu, que ce soit du Ennio Morricone pour Jean-Paul Belmondo ou Nathalie Dessay pour d'autres occasions.
Et pour les victimes du terrorisme, c'est souvent des musiciens classiques d'ailleurs, c'est très grave. L'émotion est
même
est
si les cérémonies militaires qui se déroulent traditionnellement, puisqu'on honore les gloires militaires, ne sont pas si graves. Hein, c'est ce que raconte Sylvain Faure, elles sont plus légères qu'on ne peut le penser.
Ouais. Et c'est un lieu habité, hein, il faut le rappeler, hein, par les pensionnaires des Invalides, hein, les blessés de guerre. Ils assistent aux grandes cérémonies et ils nous rappellent que c'est une place d'armes. Sylvain Faure dit que c'est la place d'armes de la France.
Oui, et l'origine de cette cour, c'est un lieu de promenade dont on a fixé le nombre maximum de piétons à 1500, je crois. Et c'est une cour de récréation, en quelque sorte, pour les blessés de guerre, pour les pensionnaires de l'hôpital.
Autre lieu de pouvoir, Sébastien Le Foll, l'hôpital du Val-de-Grâce. C'est là que sont soignés les présidents en exercice.
Oui, vous voyez là encore que c'est quand même l'armée qui tient encore beaucoup ce pays. Bah oui, le Val-de-Grâce qui a fermé maintenant depuis 2016, qui va se transformer en lieu de la médecine du futur. Là aussi, c'est le service des armées, le service de santé des armées. Et c'est là où l'on soigne le corps physique du pouvoir, à l'abri des regards, car il faut préserver le corps du pouvoir intact. Et ce lieu, effectivement, c'est là où le secret militaire, à la fois on préserve les secrets militaires, mais aussi le secret d'État et le secret médical, hein, triple secret. Et c'est là où, effectivement, on voit que les secrets ont quand même été bien tenus, puisque c'est là que, un jour de novembre 1981, un certain Albert Blot est hospitalisé pour des examens. On va lui diagnostiquer un cancer de la prostate. C'est François Mitterrand et le secret va être bien gardé pendant ces deux septennats.
Et on dirait même que l'hôpital de Val-de-Grâce, il est là pour conserver le secret, bien entendu, mais pas pour tout le monde, hein, puisque le président de la République, lui, est tenu au courant de l'état de santé des personnalités hospitalisées au sein de l'établissement, que ce soit Yasser Arafat, qui est décédé, Bouteflika, victime d'un AVC, mais aussi les Français, hein, Jean-Pierre Raffarin, qui était Premier ministre, ou Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur, qui est tombé dans le coma.
Oui, alors Jean-Pierre Chevènement, lui, a fait une mauvaise réaction à une anesthésie, parce qu'il avait sauté un rendez-vous avec l'anesthésiste, hein, compte tenu de ses fonctions, et effectivement, il a passé plusieurs jours dans le coma. Lui, il ne dit pas que c'est un lieu de pouvoir, le Val-de-Grâce, c'est un lieu de souffrance, et Jean-Pierre Raffarin est hospitalisé et s'apprête à prévenir Jacques Chirac, qui, en fait, devance son appel et est parfaitement au courant de la raison qui l'amène à l'hôpital.
Bien entendu, évidemment. On fait une pause, Sébastien Le Foll, et on y revient tout de suite après.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes avec Sébastien Le Foll. C'est sous sa direction que vient de paraître aux éditions Perrin Les Lieux du Pouvoir. Et parmi les lieux du pouvoir, il y a la tribune officielle lors du défilé militaire du 14 juillet. C'est sans doute le lieu de pouvoir, j'allais dire, le plus connu, parce que les caméras de télé sont bloquées dessus pendant toute la durée de la cérémonie. Hein.
Oui, et pourtant, le spectacle, il est sur l'avenue des Champs-Élysées. C'est le défilé militaire. Mais le spectacle de la tribune obéit à un rituel, un protocole, à une mise en scène aujourd'hui que je sous-estimais totalement, que j'ai découverte en enquêtant sur ce sujet.
C'est vrai
qu'on
ne sait pas pourquoi les gens y sont assis.
Oui,
mais on les voit, mais on ne sait pas qui c'est.
Voilà le lieu même de la représentation du pouvoir. C'est un moment important pour le président de la République, car c'est le moment où il s'affiche en chef des armées, en descendant du roi de guerre et du maître des batailles, Napoléon. Donc cette représentation-là, la manière dont on le met en scène, est fondamentale en tout cas pour montrer son autorité à la nation.
D'ailleurs, il est dit dans votre livre, Sébastien Le Foll, que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui lui a donné cette dimension de représentation. Mais c'est François Mitterrand, en 1981, qui a été le premier et l'unique, je crois, à s'asseoir seul devant tout le monde.
Oui, hein, Mitterrand, il est formidable parce qu'il a dénoncé dans un pamphlet célèbre, le coup d'État permanent, la dérive monarchique de la Ve République. Et que la première chose qu'il fait, c'est qu'effectivement, le 14 juillet 1981, on le voit apparaître sur un fauteuil empire, bois doré, soie rouge, devant tous ses ministres. On ne reverra pas ensuite, les autres présidents sont mis au même rang que le Premier ministre, le président des assemblées. Il y a tout un protocole bien régi par un décret de 89. Mais Mitterrand, là, apparaît en empereur romain, à la surprise générale.
Alors, la présence de chefs d'État étrangers, c'est devenu une attraction. On se souvient qu'en 1989, pour le défilé du bicentenaire, François Mitterrand était entouré de 35 chefs d'État. En 2008, Nicolas Sarkozy avait lancé l'éphémère Union de la Méditerranée. C'était les 27 États de l'Union européenne qui étaient présents, mais aussi Muammar Kadhafi, Ben Ali, Moubarak.
La tribune des dictateurs, comme on l'a appelé.
Ah oui, on avait dit ça, effectivement. C'est devenu, effectivement, non seulement une représentation du pouvoir à l'intérieur, mais pratiquement aussi de nos relations internationales avec les pays étrangers.
Oui, c'est la vitrine de la France. Et d'ailleurs, Donald Trump, après avoir assisté à son premier 14 juillet, en remontant d'Air Force One, a demandé à son entourage de organiser la même chose pour lui. Bon, ça n'a pas vu le jour, mais et cette tribune, on le raconte dans ce livre sur les lieux du pouvoir, obéit non seulement à un protocole, mais le mobilier national fait tout un travail. Longtemps, l'assise présidentielle était plus haute de 5 cm que les autres les sièges des simples mortels, en quelque sorte, ou quand même que les hautes personnalités. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que, moi je l'ignorais avant de faire cette enquête, c'est qu'en principe, tous les Français pourraient obtenir une place dans l'une de ces tribunes. Là, on parle de la tribune d'honneur, la tribune présidentielle, mais il y en a d'autres. Mais chacun souhaite plutôt être invité, convié, plutôt que de s'inscrire sur Internet.
Oui, évidemment. Il y avait un roman qui était paru il y a longtemps, où qui imaginait qu'une bombe était posée sous cette tribune et qu'en fait, toute la hiérarchie du pouvoir en France disparaissait et qu'il ne restait plus qu'une personne qui avait les clés du PC Jupiter. Et c'était le dernier planton.
Mais vous évoquiez le 14 juillet 1989, où les chefs d'État étaient apparus derrière cette vitre par balle qu'avaient exigé les services américains, et Mitterrand avait dit moi je n'ai pas l'habitude d'aller m'asseoir dans une cage de verre.
Alors une autre tribune qui a pris beaucoup d'importance depuis 1998 exactement, c'est la tribune présidentielle du Stade de France. Elle n'est pas du tout protocolaire celle-ci, mais tout aussi stratégique puisque, enfin depuis la victoire de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde en 98, Jacques Chirac était très présent à l'époque et il a au fond été le premier à utiliser politiquement cette tribune.
Bah oui, souvenez-vous Frédéric, c'est après quelques temps après la dissolution ratée, Jacques Chirac se pose beaucoup de questions sur la suite de sa présidence. Et il y a cette victoire de l'équipe de France d'Aimé Jacquet, presque miraculeuse. Et Jacques Chirac, qui ne s'y connaît pas beaucoup en football, puisqu'on revoit souvent ces fameuses images où il essaie de prononcer le nom des joueurs, mais il ne les connaît pas tous. Et là, voilà, c'est non pas le ballon ou la coupe qu'il va embrasser, mais le crâne de Fabien Barthez, le gardien de but. Et tout de suite, Chirac va apparaître, va renaître en quelque sorte dans cette tribune.
Mais le sport, il faut dire, c'est le dernier trait d'union nationale qui parle à tous les âges, à toutes les classes sociales. C'est aussi ce qui est dit dans votre livre.
D'ailleurs, la Coupe du Monde de 98 a réalisé ce que le 14 juillet n'arrive plus à produire, c'est-à-dire un mouvement d'euphorie, de consensus national.
Dernier lieu de pouvoir qu'on va envisager ensemble, Sébastien Le Foll, le poste de commandement Jupiter, le bunker situé sous l'Élysée, d'où le président de la République peut déclencher le feu nucléaire. On sait à quoi il ressemble ?
C'est une salle très exiguë. Alors, c'est Jean Guinel, qui est un de nos spécialistes du roman d'espionnage, qui connaît ça par cœur, qui nous décrit cette salle effectivement très malcommode, parce que tous ces lieux de pouvoir sont très souvent malcommodes, exigus, vieillots. Alors, c'est un bunker au départ, un abri antiaérien qui entre en fonction en 1940, sous Albert Lebrun. Et Giscard, dit-on, quand il est élu, se rend compte que le matériel qui sert à déclencher le feu nucléaire est dans une sorte d'armoire métallique, et va donc décider d'aménager cette salle Jupiter. Lui et Mitterrand s'en serviront assez peu, mais effectivement, là encore, c'est Emmanuel Macron qui va être le premier à se mettre en scène dans cette salle. C'est de là que vont être lancés. Il y a l'offensive en Syrie, mais aussi au moment du Covid.
Oui, parce que c'est là que se réunit le Conseil de défense.
C'est là que se réunit le Conseil de défense et de sécurité intérieure. La plupart du temps, les décisions sont prises avant, mais en tout cas, on dit qu'à partir du moment où elles sont officialisées après une réunion dans le PC Jupiter, elles sont irrémédiables.
On a dit que Emmanuel Macron avait dû s'y réfugier pendant une manifestation des Gilets jaunes. J'ai toujours pensé que c'était une légende.
Alors ça, Jean Guinel n'a pas pu confirmer cette information. En tout cas, ce PC Jupiter est à la fois bien protégé des bombardements et des interceptions électroniques.
Merci Sébastien Le Foll, ça s'intitule « Les lieux du pouvoir » et ça vient de paraître aux éditions Perrin. On a maintenant rendez-vous avec Valérie Benaïm qui a enquêté, elle, sur ces femmes qui tombent amoureuses des tueurs en série.
Europe 1.
Valérie Benaïm, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes journaliste, animatrice de radio et de télévision, chroniqueuse sur Touche pas à mon poste et vous publiez chez Fayard « Il n'est pas celui que vous croyez », c'est sur ces femmes qui tombent amoureuses de tueurs en série. C'est ce qu'on appelle l'hybristophilie ou le syndrome de Bonnie and Clyde.
Exactement, c'est un syndrome essentiellement féminin et c'est une inclinaison de certaines femmes qui vont avoir des élans amoureux voire sexuels pour des hommes qui ont du sang sur les mains.
Et qui sont en prison.
Et qui sont en prison.
Ce qui a attiré votre attention sur ce sujet, c'est le cas de Nordal Lelandais. Il y avait une lycéenne de 17 ans qui lui écrivait sur Facebook et une quinquagénaire qui lui rendait visite en prison, d'où vous avez fini par obtenir le témoignage d'ailleurs.
Exactement. En fait, j'étais en train de travailler à ma table de travail à la maison et j'ai toujours, moi, une sorte de réminiscence de mes années dans les rédactions. Il me faut un bruit de fond. Et donc, j'ai toujours la télé allumée sur les chaînes info. Et il se trouve que je ne sais quelle partie de mon cerveau a été attirée par une information plus qu'une autre. Et en l'occurrence, cette information, c'était l'irruption dans le dossier, en marge du dossier Nordal Lelandais, d'une femme. Une femme qui aurait, à l'époque, on utilisait le conditionnel parce qu'on n'était pas sûr de toutes les informations, qui aurait passé de la drogue, de l'alcool et des téléphones portables à Nordal Lelandais. Et on supposait une relation amoureuse. Et là, j'ai tout arrêté et je me suis penchée sur cette affaire.
Mais vous avez réalisé que c'était pas le seul. Hein. Anders Breivik, qui a tué 77 jeunes gens et en a blessé 150 autres en Norvège en 2011, ou Marc Dutroux, condamné pour assassinat, séquestration et viol sur mineurs en Belgique en 2004. Ils reçoivent tous les deux un courrier sentimental abondant.
Oui, Anders Breivik, c'est 800 lettres par mois. C'est absolument dingue. Et des lettres énamourées. Alors, il y a un peu de tout dans les lettres. Hein. Il y a ce que j'appelle vraiment de la lettre un peu de la dame patronesse. Charité chrétienne, on tend la main, on veut dire qu'on est là qu'il y a, et on a envie de tendre la main pour une forme d'accompagnement vers la rédemption. Et puis, il y a du courrier réellement amoureux de femmes qui sont amoureuses éperdues de ces hommes.
Et même Lucas Magnotta, le dépeceur de Montréal, comme on l'appelle, qui est ouvertement homosexuel. Il a travaillé comme escorte et comme acteur dans le porno gay. Et il s'est marié, en plus, avec un autre détenu depuis qu'il est en prison pour meurtre et pour avoir mutilé le cadavre de sa victime. Eh bien, son fan club, dites-vous, est composé très majoritairement de femmes qui lui écrivent elle aussi, des messages amoureux.
Absolument. Et effectivement, il est ouvertement homosexuel, vous l'avez dit, mais peu importe. Et lorsqu'on va un petit peu sur les forums, parce qu'elles ont créé des blogs, elles ont créé des forums, Lucas Forever, et Lucas I Love You, et quand on regarde un petit peu ce qu'elles disent, tu es trop beau pour être un tueur, moi je saurais m'occuper de toi, Lucas je t'aime, etc. etc. Ce qui est, moi, quand j'ai démarré cette enquête, les bras m'en sont tombés parce que c'est comme si l'horreur du crime n'existait pas, qu'elle était mise sous le tapis et qu'à la fois elle magnifiait l'homme dans une forme de virilisme un peu étrange et en même temps on le mettait à distance.
Il y a même des sites de rencontres spécialisés aux États-Unis, dites-vous. Oui. Est-ce que vous êtes inscrite pour votre enquête?
Non, je n'ai pas eu besoin de m'inscrire parce qu'on peut y aller, c'est en libre accès. Hein. Les auditeurs d'Europe 1 peuvent tenter le coup. C'est très surprenant. En France, évidemment, c'est extrêmement encadré. Aux États-Unis, il y a des sites de rencontres. Alors, le prisonnier inscrit, s'il le souhaite ou pas, ce qu'il a fait, ce qu'il a commis. En revanche, le nombre d'années, ou même s'il est dans le couloir de la mort. Et puis, c'est des desiderata. Je souhaite alors dialoguer avec une femme pour une relation simplement épistolaire ou pour une relation amoureuse. Et je préfère une grande, une brune, une petite, une jeune, une vieille. Enfin voilà, c'est assez surprenant. Et les jeunes femmes qui se pluguent là-dessus sont nombreuses.
Mela Ebenaïm, vous avez donc fini par rencontrer cette quinquagénaire qui est devenue la compagne de Nordal Lelandais. Vous êtes penchée sur le cas de femmes qui ont succombé au tueur en série Patrice Allègre. Vous vouliez comprendre, qu'est-ce que vous avez compris?
J'ai compris que ces femmes dont que la société met à distance en disant qu'elles sont cintrées, qu'elles sont dingues, parce que c'est une commodité, parce que c'est facile et qu'on les met dans un coin et qu'on n'en parle plus. Mais j'ai compris qu'elles étaient plus proches de moi que je ne l'imaginais, plus proches de nous, les femmes, que je ne l'imaginais, parce qu'elles sont traversées par des choses qui, à certains endroits, moi, me semblaient totalement ubuesques, mais à d'autres, me faisaient dire « mais moi aussi, je peux comprendre ça, je peux succomber à ça, je peux être traversée par le même sentiment. »
Oui, parce qu'il y a une phrase qui revient, dites-vous, « il n'est pas celui que vous croyez ». C'est d'ailleurs le titre de votre livre, hein. « Vous ne le connaissez pas comme je le connais ». Ça, c'est un sentiment qui peut vous traverser. Vous
totalement, et je pense que moi, ça m'a ouvert une réflexion sur le désir féminin. J'étais partie pour une enquête journalistique sur police-justice, on va dire. Et puis, je me suis retrouvée à travailler sur le désir féminin. Parce qu'en fait, ce que ça révèle, c'est quelque chose de l'ordre du désir féminin qui est un désir sublimateur, qui est un désir tellement puissant que les femmes, nous toutes, alors à des degrés plus ou moins divers, mais nous toutes, on est traversées par cette idée et par ce désir qui est que notre amour va pouvoir transformer l'autre, transformer le plomb en or. On va pouvoir, nous, par la force de notre amour, transformer et mettre en impression notre image sur celle que la société a de l'auteur des crimes.
Il y a un autre aspect que j'ai trouvé très intéressant dans votre livre. Vous dites qu'une femme qui entretient une relation avec un détenu est complètement maître du jeu. Elle n'est pas du tout sous emprise, comme le pensent un certain nombre de magistrats. Vous êtes devenue l'antienne. Hein. Elle était sous emprise, elle est sous emprise. Nanana. Bon, tu parles. Une femme qui entretient une relation amoureuse avec un détenu, elle est complètement maître du jeu parce qu'il ne peut pas sortir.
Voilà. Alors, effectivement, non, mais il y a un pas de deux. C'est-à-dire que c'est un pas de deux. Alors, effectivement, une fois que ce pas est initié par la femme, son amour et son désir va pouvoir être éventuellement manipulé par l'autre, bien sûr. Mais ce n'est jamais ou tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que, effectivement, et là, pour le coup, je me place du côté notamment des avocats de ces hommes qui vous disent, mais attendez, moi je veux bien que ces femmes soient sous emprise, mais malgré tout, leur action est limitée. Ils sont entre quatre murs d'une prison, ils n'ont pas de réel pouvoir sur elles, elles y vont de leur plein gré.
Si elles ne veulent plus y aller, elles y vont plus.
Si elles décident d'arrêter et la correspondance ou les visites, elles arrêtent du jour au lendemain la correspondance et les visites, et ils n'ont pas de pouvoir de pression sur elles. Donc, mais après, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas donné toutes les couleurs du tableau. Parce qu'effectivement, quand on rentre dans un pas de deux, eh bien, se joue aussi quelque chose de l'ordre du psychologique avec ces hommes-là, qui n'ont peut-être même pas besoin d'être dehors pour exercer une certaine emprise sur ces femmes.
Donc, voilà, mais c'est une emprise amoureuse, sentimentale.
C'est une emprise amoureuse, voilà. Mais comme dans un couple, j'allais dire.
Exactement.
Comme dans un couple. Voilà.
C'est là où il faut relativiser le terme emprise, qui est devenu, qu'on nous sert aujourd'hui à toutes les sauces. Alors, c'est typiquement féminin, hein, quand même. Il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas d'hommes qui, en masse, écrivent à des femmes en prison.
Alors, à la marge, il y a bien sûr des hommes qui peuvent écrire à quelques femmes en prison, mais ce n'est pas un phénomène massif. L'inverse, en revanche, pour les femmes. Les femmes, massivement, vont écrire à des prisonniers. Alors, d'abord, ça peut être des militantes, hein, abolitionnistes, par exemple, pour les États-Unis, ou des femmes qui décident de travailler dans de l'associatif pour aider, pour tendre la main, encore une fois, et pour offrir une seconde chance. Mais oui, effectivement, c'est un phénomène féminin. Les hommes, alors j'ai interrogé certains psychiatres qui me disent, parce que je ne comprenais pas pourquoi un phénomène absolument féminin et pas masculin ou à la marge. Eh bien, il semblerait que c'est parce que vous, messieurs, vous soyez trouillards.
C'est très possible.
Et que finalement, les femmes qui ont du sang sur les mains, c'est castrateur. Et par ailleurs, il y a quelque chose, je pense, aussi de l'ordre de l'image que l'on colle à la femme. La femme, c'est la Madone. La femme, elle donne la vie. La femme, c'est la pureté.
Il y a l'inverse, mais, si vous le savez bien, c'est une dichotomie.
On le sait bien. Mais en revanche, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de... Elle donne la vie, elle ne peut pas être accolée à la mort, au sang, au meurtre. Et donc, les hommes n'y vont pas. Et pour la petite histoire, Daniel Zaguri, que j'interview, qui est un psychiatre qui a expertisé un nombre de tueurs pour les tribunaux, me raconte l'histoire de cet homme qui, lui, y est allé et qui décide d'écrire à une dame qui, elle, est en prison parce qu'elle a tué son premier mari et puis son deuxième mari. Et lui dit non, mais moi j'y vais parce qu'elle est formidable, elle est magnifique, elle est merveilleuse. Et cette dame finit par sortir. Et bien, figurez-vous que comme je reprends les termes de Daniel Zaguri, eh bien, elle l'a zigouillé en sortant. Donc, ça a refroidi plus d'un.
Il n'est pas celui que vous croyez. C'est le titre du livre de Valérie Benahim qui vient de paraître chez Fayard. Merci Valérie.
Merci Frédéric.
Et bon dimanche.
Merci, oui, bon dimanche à tous.
Europe 1.
C'est arrivé demain, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain à 9h. Je vous souhaite une très bonne semaine.